c'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
Ouais, je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
RMC Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable. Il m'appelle
Nicolas Villas.
Toujours aussi bien accompagné, Ludo Bragnac, Jonathan McCarty, Sacha Tavolieri, Simone Rovera, Julien Laurence également. Nos drôles de dames sont là, c'est la foire aux questions de l'after. Hashtag FAQ comme foire aux questions les initiales, 3xD comme drôle de dames également. Vous venez poser vos questions à nos drôles de dames. David Bertolari sera là dans quelques instants. Ah ouais. La
place
est prête.
Mmh.
La même chose, hein?
Tu l'avais annoncé.
Mais je crois que la gym, on est dans les prolongations là.
Oh,
ça joue la prolonge.
Il se fait désirer, c'est désiré.
Il est là, il est où? Il est là, David Lortenard.
Mais oui. Voilà.
Comment il est sapé, sans déconner, lui. Ah oui, c'est mieux, oui.
À la droite du chef.
Tu peux aller sous le truc, mais on t'entendra moins bien, du coup.
Salut à tous.
Ça va,
salut,
bon. Ça va, toi, ou quoi?
On essaye.
Qu'est-ce que tu faisais là, d'ailleurs? Dis-nous tout.
Championnat du monde Red Bull Air Race, c'était la voltige aérienne, c'était le dénouement ce soir.
On dit que c'était de la gym, moi.
Non, on peut pas tout faire non plus.
Ah ouais, d'accord, on m'a menti.
Et Stanček qui a gagné, mon cher.
Qui ça?
Martin Šonka, un tchèque.
Ah oui, j'ai compris Stanček, je crois que c'était son nom, Stanček.
Ouais, il s'appelle Stanček, c'est Stanček.
Ouais. Enfin, bref. T'es là, Julien Laurence, ou pas?
Bien sûr, toujours.
Putain, tu vois pas l'ortho, mais qu'est-ce qu'il est bien sapé encore ce soir, mon gars.
Alors, j'imagine.
Tu vois, le petit... j'ai perdu mes questions. Bon, c'est pas
une veste de survêt, un peu années 90, Berlin, tu vois.
On a une question pour toi, mon Julien, également, qui concerne Harry Kane, qui marque le but de la victoire. On vous rappelle que l'Angleterre est qualifiée pour le Final Four. Victoire 2-1 face à la Croatie. Ouh. Southgate a dit aujourd'hui, Julien, que Harry Kane était peut-être le meilleur numéro 9 du monde, c'est ça?
Pas peut-être, hein, même. Il a dit, c'est le meilleur buteur du monde actuellement. Et quand on a le meilleur buteur du monde avec nous, on ne le sort pas en cours de match, on le laisse à la fin, même s'il n'est pas dans un très bon jour. Parce que tout ce qu'il fait, en fait, c'est bien. Voilà. Et la question était, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Harry Kane en seconde période aujourd'hui. Cet après-midi, il a été complètement transparent, complètement anonyme. Et à la 75e, 76e minute, il sort de sa boîte pour être impliqué dans le but de l'égalisation de Jesse Lingard. Et après, 5 minutes à 86e ou 85e, il marque le but vainqueur d'une reprise de vrai pur buteur, de vrai pur avant-centre, où il jette sur un coup franc excentré, etc. La question autour de Kane, elle est intéressante parce que c'est son 20e but en 35 sélections. Donc le ratio sélection but marqué est assez impressionnant à ce niveau-là. Il fait une bonne saison avec Tottenham pour l'instant. Il a 6 buts en 12 matchs de Première Ligue, 4 en 4 matchs de Ligue des Champions. Mais il n'avait pas marqué, par exemple, depuis 7 matchs avec l'Angleterre. 747 minutes, je crois. Et quand il est transparent, comme il a été en seconde période, d'accord, il est présent sur les deux buts, mais t'as vraiment l'impression qu'ils ont joué à 10 pendant 30 minutes, un peu plus de 30 minutes en seconde période.
Vous en pensez quoi, vous, de l'avis de Southgate aussi, là, sur Kane?
Moi, je vais aller presque plus loin. Pour moi, c'est la réincarnation de, alors même s'il est pas mort, mais de Alan Shearer.
T'as jamais que
vois, ouais, mais je
pourtant c'est pas le même style, hein.
Ouais, mais je vois du Alan Shearer en Harry Kane, dans son état d'esprit, dans la façon d'être. Il est bon en tout, ce garçon.
Il est plus élégant.
C'est l'attaquant moderne.
Qui est plus élégant?
Harry Kane.
Vous savez quoi, je me demande si je préfère pas Shearer à Kane en termes d'élégance. Hein.
Non, mais
Non,
littéralement cette équipe d'Angleterre, et justement il bonifie tout le monde autour de lui, et on a tout, il est toujours là dans les rendez-vous, on l'attend, il arrive à chaque fois à propulser cette équipe qui est sur une bonne dynamique depuis un bon moment.
Il y a pas de question à se poser, c'est le meilleur neuf au monde actuellement, et je suis presque tenté de dire de loin.
Et Cavani. Tu peux mettre Lewandowski aussi.
Ouais, Lewandowski, Cavani, il est pas non plus, tu vois. Moi je trouve qu'Harry Kane, il est, enfin, vu ce qu'il propose, alors c'est vrai que là, il a pas fait non plus un super match, mais il est régulier, il marque.
C'est ce qu'on disait avec Simonet, tu mets en équipe d'Italie, ils sont champions du monde.
Mais bien sûr. Rétroactif.
Champion du monde quelle année?
Encore une fois, je pense que le concept de meilleur attaquant du monde est hyper flou, quoi. C'est super subjectif, c'est-à-dire que si tu regardes le profil, t'as des profils totalement différents, mais des joueurs qui sont capables d'avoir une efficacité incroyable à des moments bien précis. Je pense à Agüero avec Manchester City qui est quand il est à 100%, et pour moi le meilleur, c'est pas l'un des meilleurs au monde, avec évidemment Suarez, le match de Suarez face au Real Madrid, rappelez-vous les amis, ce niveau quand même, c'est quelque chose.
Il
est très complet.
Ouais, mais
il est
sympa. Dans
l'élégance.
Icardi, Mauro Icardi. On peut dire quelque chose quand même sur Icardi.
Ils sont pas mais c'est vrai qu'il est perdu, lui, et Kane, là, pour le coup.
J'aimerais bien voir Kane en Italie pour voir en termes d'intelligence, de déplacement. Je doute.
Après, les meilleurs
en Ligue des Champions, c'est des preuves de feu.
De quoi?
Les meilleurs attaquants au monde, ça reste Cristiano Ronaldo. Donc, il n'y a pas de débat. Depuis qu'il est arrivé en Serie A.
Moi, j'ai rien dit. C'est le meilleur joueur.
Vous pouvez pas le nationaliser aujourd'hui.
Ouais, j'ai cherché. Tu sais, on a cherché. Tu sais qu'on a cherché de nationaliser Icardi et Dybala. Les deux ont refusé.
Vas-y, Julien. Julien.
Non, ce qu'il faut à Kane maintenant, c'est de gagner quelque chose, parce que c'est très bien de marquer autant de buts, autant de buts qu'il le fait. Tant que son palmarès restera vierge comme il est actuellement, hein, il a jamais rien gagné dans sa carrière. Ce sera, il a 25 ans maintenant. Tant qu'il n'y aura pas ce titre, que ce soit même à commencer par une coupe d'Angleterre, une coupe de la Ligue, quelque chose comme ça, avant de passer peut-être à la Ligue des Champions ou au championnat ou quelque chose avec l'Angleterre.
Pourquoi pas la Ligue des Nations, Julien?
Ou la Ligue des Nations, effectivement.
Bah, mais il joue à Tottenham. Mais voilà, c'est dur de gagner quelque chose. En club,
bah, c'est dur, cup, ça peut être bien. Une cup, c'est jouable, dur, hein.
Mais il y a de la concurrence, comme
les
c'est
les meilleurs
simple,
joueurs, hein. les grands attaquants, ils amènent leur équipe à ce genre de titre-là.
En effet. On poursuit cette fois aux questions. Hashtag FAQ 3xD pour poser vos questions. Mon David, voilà, toi qui es là maintenant. On rappelle demain dans le groupe 1, le groupe de la France. La France, il y aura un match amical face à l'Uruguay. Il y aura un match, le dernier de ce groupe, entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Si les Pays-Bas font au moins un match nul, la France ne sera pas qualifiée pour la Ligue des Nations, pour le Final Four de la Ligue des Nations. Alors déjà, première question, est-ce que tu penses que les Allemands vont jouer le jeu à fond demain?
Alors c'est un match important aussi en Allemagne à plusieurs titres et je pense que derrière cette
question, l'Allemagne est relayée en Ligue B hein, quoi qu'il arrive.
Derrière cette question, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le fait d'avoir perdu 0-3 contre les Pays-Bas, le match aller. Et ça, je pense qu'en Allemagne, étant donné l'adversité qu'il y a toujours eu historiquement entre ces deux-là, j'ai pas besoin d'en faire trop. On aura vite compris que ça va pas tellement leur plaire aux Allemands. Ensuite, il y a un truc très important, c'est la question essentielle aujourd'hui en Allemagne, c'est dans quelle mesure on renouvelle le groupe, l'effectif, le 11 titulaire et Löw commence vraiment à s'engager dans un renouvellement en profondeur. Ça n'est pas une révolution, mais il y a de plus en plus de jeunes qui jouent et ces jeunes-là sont bons, sont performants et ils en veulent. Et c'est pas un très bon signe pour les adversaires. On l'a vu récemment, l'Allemagne commence à trouver quelque chose, à retrouver de la vitesse, à retrouver de la spontanéité. On l'a vu à l'occasion du dernier match. C'est furieusement intéressant avec le match aller, c'est furieusement intéressant avec les changements qui sont faits maintenant par le sélectionneur, parce que c'est une fuite en avant maintenant. Il peut plus revenir en arrière, il peut plus ramener des Boateng, des Hummels et des Müller sans se poser la question est-ce que c'est légitime de les mettre. Donc pour répondre à ta question de départ, je vois pas les Allemands se faire punir à nouveau 0-3 comme ça a été le cas au match aller.
Alors comme t'as du retard à rattraper, autre question également qui concerne l'Allemagne et ce match de Ligue des Nations, est-ce que cette relégation en Ligue B, elle a été vécue comme une catastrophe finalement pour juste je vais lire une déclaration.
Une catastrophe.
Il y a Declaration Joachim Löw qui a dit pour nous ce résultat est naturellement douloureux, mais nous devons l'accepter. Notre objectif reste fixé sur l'Euro 2020 pour lequel nous allons nous qualifier et nous voulons de nouveau envoyer une équipe forte. Nous allons continuer à faire de la place pour nos jeunes joueurs et les intégrer progressivement à la sélection. Voilà, déclaration du sélectionneur. Mais est-ce que cette relégation en Ligue B, elle a été vécue comme une humiliation quelque part finalement?
Les mots sont trop forts, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'humiliation. Ce qu'il a dit là est un bon résumé. Il l'avait dit aussi en conférence de presse en disant c'est pas absolument pas un cauchemar d'être relégué parce qu'on partait de loin. Il y avait des joueurs qui avaient encore la Coupe du Monde catastrophique en tête. Par exemple, Manuel Neuer qui s'était certes remis au bon moment, mais qui l'a avoué lui-même, ça pèse très lourd dans son esprit ces derniers mois. On va voir avec les prochains matchs. Et notamment celui de ce lundi, on va voir avec les prochains matchs si le traumatisme entre la Mannschaft et son public, si la fracture qui est réelle puisqu'il manquait, je crois, 10 000 personnes au stade lors du dernier match, clairement les gens sont en désamour avec cette équipe, on va voir si cette fracture se réduit, mais elle existe. Ça n'est pas une catastrophe, ça n'est pas une humiliation, mais il y a clairement un désamour entre le public et les fans et les supporters de foot allemand et l'équipe nationale, oui.
Question et toi aussi, il y a aussi l'histoire du tirage au sort pour les éliminateurs de l'Euro 2020.
Oui,
si
on peut tomber.
Ne gagne pas demain, ils pourraient se retrouver dans le chapeau 2.
Bien sûr.
Ce qui forcément leur donnerait un groupe beaucoup plus difficile pour les éliminatoires.
Tomber sur un gros, notamment, oui, bien sûr, bien sûr.
Question pour toi, mon cher Simonet, voilà, dans cette foire aux questions également. Tiens, tout à l'heure, on évoquait la problématique du numéro 9. Il y a une question qui vient de tomber là sur l'application Direct Studio. On a Rezzato qui nous dit, Simonet, qui sera l'attaquant dans les années à venir pour mener l'Italie au sommet? Et alors, il y a Achille qui avait posé une question également sur le hashtag FAQ 3xD. Est-ce que c'est fini pour Balotelli? C'est vrai que la problématique du 9, on parlait tout à l'heure des stats offensives sous Mancini, 8 buts en 8 matchs, quand même pas génial. C'est quoi la solution à l'avenir là? Balotelli, c'est vraiment mort là ou pas?
Balotelli, franchement, doit recommencer à marquer des buts avec Nice et il a 0 cette saison. Immobilier, il est à un but sur les 14 derniers matchs avec la sélection. Quelque chose d'extraordinaire. On va voir Belotti, ses 4 buts cette saison avec Torino. Il a mis un doublé il y a 2 semaines face à la Sampdoria. Sinon, ça est resté sur 2 buts sur les 10 premiers matchs.
C'est quoi, c'est physique le problème avec lui? C'est parce que c'est quand même.
C'est surtout physique. Moi, j'ai l'impression qu'il revient pas au niveau qu'il avait avant la blessure au genou de septembre dernier. Après, sa saison a été quand même négative. Moi, je vois, si je pense au 2020, je regarde déjà à l'avenir, aux solutions qui peuvent être, je mets 3 noms, son Pellegrini, à voir qu'est-ce que va devenir ces joueurs dont parle très bien. Patrick Cotrone, bien sûr. Ouais. Lui aussi, les jours, il sera titulaire quand même dans un club. Il y a plein de supporters, même sur les réseaux sociaux, qui demandent Cotrone est titulaire à l'équipe Italie. On peut pas mettre titulaire un joueur qui est remplaçant au Milan. Et les troisièmes, lui aussi, je vois un énorme avenir devant lui. C'est Moïse Kean, l'attaquant de la Juve.
Il va aller à Marseille.
Lui, pour l'instant, il joue pas parce qu'il est resté à la Juve. Il a marqué encore un but avec les espoirs face à l'Angleterre cette semaine. Enfin, elle a fait un gros match.
Oh, mais il y a du monde devant lui.
Il a été excellent, hein. Franchement.
Il doit jouer. D'ici à l'Euro 2020, on va voir.
Mais il faut qu'il s'en aille,
du coup. En janvier, il devrait partir en prêt, quelque part. On va voir.
Non, mais ils ont essayé un jour de faire venir en prêt.
Il est un jour né dans l'année 2000, donc il a 18 ans. On va voir. Mais on voit plus des solutions sur ces trois joueurs d'avenir qui sur les joueurs qui sont là aujourd'hui et qui n'arrivent pas à s'imposer.
Honnêtement, je pense qu'il doit, c'est un joueur qui est, je rejoins totalement Simone, et qui a une qualité absolument incroyable de mobilité et dans ses déplacements, il est extrêmement rapide et il sait faire des différences sur des espaces extrêmement courts. Je pense que ce qui lui manque,
physiquement, il est fort.
Voilà. Je pense que ce qui lui manque encore, d'abord, oui, c'est un pur neuf, il peut jouer tout seul devant dans un système à 3, mais surtout, là où il est très, très, très intéressant, c'est comme je le dis, il est aussi très fort en face à face. Okay. Donc, techniquement, il sait aussi faire une différence. Moi, j'aimerais bien le voir dans un club comme Sassuolo, où il va apprendre l'expérience de ce que c'est l'Italie, l'intelligence.
Ils vont le laisser
ça va être difficile, mais il va apprendre des choses.
Il va être prêté en Italie, après, il faut voir
ce que Sassuolo, c'est un peu la filiale, non, de la Juve. Ouais.
Ça peut être, en ce moment, ça fonctionne bien avec d'autres joueurs. Je sais pas s'il a l'intérêt. Un joueur comme Moïse Kean, tout le monde le veut, mais pour investir sur lui. C'est-à-dire, le pendant près, 6 mois.
Marseille était prêt à mettre 20 millions cet été.
Mais la Juve n'était pas prêt à aller.
La Juve voulait pas le voir, mais il y a pas mettre 20 millions.
Honnêtement, oui, 20 millions pour un joueur comme ça, c'est du suicide. La solution immédiate, c'est quoi pour l'Italie? Parce que alors, Balotelli,
la solution immédiate, c'est jouer sans numéro 9. Comme on l'a joué face à la Pologne, avec Bernardeschi, il signait, et Chiesa. Chiesa n'était pas extraordinaire, lui aussi un peu un bas des régimes, on peut dire. Mais la solution, c'est de ne pas voir numéro 9 et peut-être mettre Insigne un peu plus central. On rappelle qu'en jouant attaquant dans les 4-4-2, Insigne est en train de vivre sa meilleure saison, sa meilleure début de saison.
Cet attaquant très grand qui joue au Napoli, sa sœur et
Milik
aussi.
Pavoletti.
Non, il est en Angleterre.
Gabriel.
Je crois que c'était un super joueur.
Julien, il joue pas à Sutton, je crois.
Non, il joue très peu, il marque très peu aussi, mais
il a marqué,
tu sens le talent, tu sens le pied gauche, il a un pied gauche incroyable, mais ça a pas du tout marché pour lui en Angleterre.
Et comment ça se fait que ça, parce qu'il a un talent pur, qui est quand même,
elle est top dans sa famille, c'est la sœur.
Ouais, c'est ce que je disais, ouais.
Les meilleurs buteurs du championnat italien plusieurs années.
Question pour toi, Sacha. On rappelle que la Belgique s'est inclinée en Suisse ce soir 5-2 et que la Suisse est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations en compagnie de l'Angleterre et du Portugal. Demain, on saura qui de la France ou des Pays-Bas sera qualifié. On rappelle que si les Pays-Bas font au moins un match nul face à l'Allemagne de l'Orto, les Pays-Bas disputeront ce Final Four qui se disputera du 5 au 9 juin prochain au Portugal. Comment t'expliques l'instabilité de la Belgique? Il y a des questions qui tombent là-dessus, là, sur le hashtag FAQ, là, DDD.
Non, d'abord c'est pas le seum.
Mais déjà, est-ce que des problèmes
ça va mal vieillir.
On disait souvent qu'il y avait des problèmes en interne, tu vois, entre les joueurs.
Il est évidemment pas question de ça. Je pense qu'il y a un grand étonnement et aujourd'hui on a vu que ce qu'on pensait être une assurance, de parler d'autogestion notamment en début d'émission, eh bien a des failles et ça peut tout à fait s'écrouler si à un moment donné il y a une surprise et il y a un élément qui ne tient pas. Aujourd'hui, il y a un élément, un joueur. Il y a trois buts sur la pomme de Nasser Chadli aujourd'hui.
Non, mais d'ailleurs, c'est un individu qui casse la cohésion. Sacha, je vais te faire la question différemment. Le mot, c'est même pas instabilité. C'est pourquoi, au moment où on les attend, ils y arrivent jamais. C'est pas toujours Chadli le problème, Sacha.
Vous êtes pas un peu dur, là? C'est-à-dire, ils ont perdu un match, quoi, ça va.
Bah, ils perdent au moment où on les attend à chaque fois, tu vois.
On les attend, c'est un match de Ligue des Nations, ça va. Attends, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde.
Pour moi, c'est pas une mentalité, mais ça, c'est sûr. Mais c'est-à-dire qu'ici, le problème est beaucoup plus général. Si tu veux évidemment parler de ça, il n'y a pas de souci. La Belgique est un pays qui a du mal à conquérir d'une manière générale dans son histoire. Ça revient, on est dans un débat qui est beaucoup plus politique ici. Mais ceci dit, cette équipe et la manière dont elle a été construite, c'est pour gagner. Effectivement, les joueurs veulent gagner. Mais c'est pas forcément la façon dont Roberto Martinez entraîner ses joueurs, c'est-à-dire qu'il les entraîne pour des belles performances, pour du jeu, mais pas avec une mentalité de gagne. Il n'y a pas le résultat avant tout. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas ça en Belgique. Ça n'existe pas, le résultat avant tout. En Italie, c'est une culture. Ils ont réussi à le façonner. Ils ont gagné 4 étoiles. En France, aujourd'hui, il y a eu Didier Deschamps effectivement qui a ramené 2 étoiles avec le jeu qu'on connaît. Et puis cette Belgique qui effectivement n'arrive pas à se pragmatiser.
Non, Sacha,
et qui quand ça va ça match. Va, quand ça va pas ben ça
tu
va pas.
Prends, tu te prends une grosse bosse sur la tête aujourd'hui, mais quand tu regardes le bilan, à dire aller juste sur l'année civile, il est exceptionnel.
C'est très positif. Ici c'est un bilan général, c'est une analyse sur comment est-ce que la Belgique fonctionne, comment est-ce que le football belge a été construit, et ça n'a pas été ils n'ont pas été construits pour gagner une Coupe du Monde ou pour gagner des grands titres.
Tu évoques l'autogestion, donc tu minimises le rôle de et l'impact de Roberto Martinez dans cette équipe.
Roberto Martinez, il a un impact communicationnel clair. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est un très très bon communicant et un bel homme politique.
Tactique aussi.
Tactiquement, il a réussi avec calme à renverser les choses, mais il faut le dire, par exemple, eu de très très grandes chances, une vraie réussite, comme lors du match où tout le monde est mort, on se voit mort face au Japon. Puis par la suite, il profite d'une tendance et d'une dynamique très très cohérente. Eden Hazard est au sommet face au Brésil et puis arrive cette demi-finale. Donc aujourd'hui, il y a une série de circonstances qui ont joué avec lui, qu'il a mis en place. C'est le mérite lui est dû. Il y a aucun problème par rapport à ça. Ceci dit, il y a des failles chez Roberto Martinez.
Elle a laissé des traces cette demi-finale quand même.
Elle a laissé des traces, effectivement.
Mais tu gagnes tous tes matchs.
Mais c'est pas forcément quelque chose qui va à terme faire du mal aux joueurs. Mais je pense pas aussi au-delà de ça.
Tu touches du doigt la possibilité de passer un cap.
Ouais.
Et à chaque fois,
vous êtes dur. Ils ont passé le cap là.
Ils perdent deux matchs qu'on attendait face à l'équipe de France. Jonathan, là, ils peuvent se qualifier. Alors, ok,
ils vont en demi-finale.
C'est que la Ligue des Nations.
C'est déjà bien.
Mais d'accord.
Moi, quand je vois les réactions après le match de l'équipe de France, ils attendaient à aller beaucoup plus.
Il y a un adversaire qui était haut.
Ils avaient des ambitions. La façon de jouer et de s'entraîner a été mise en place pour gagner.
Jonathan, c'est ça que je dis. On peut pas dire, comme tu disais tout à l'heure, on s'attendait pas à ce que la France aille en finale de Coupe du Monde et dire les Belges qui faisaient parti quand même des favoris.
Bah
justement, donc, et dire ah bah les mecs c'est bien, mais c'est
après,
pas si grave,
mais après tu joues en phase d'élimination directe, c'est plus difficile.
2016,
je suis d'accord,
pour l'Euro, tu es d'accord, 2 ans qu'on les attend, ils ont peut-être une des meilleures générations de leur histoire, je vais pas,
mais c'est une progression par rapport à l'Euro.
Très très bon défense à niveau défensif, on est bons joueurs, après qu'ils défendent pas bien comme on a vu ce soir, ils ont un très bon gardien, milieu de qualité, attaque extraordinaire, et ça fait 2 ans et demi qu'on les attend de gagner quelque chose ou arriver à la dernière, en finale, au moins, ils n'arrivent pas.
Je pense pas que cette équipe
elle repose sur ce qu'on appelle l'osmose. Aujourd'hui, quand l'osmose est présente.
Du talent aussi, quand même.
Il y a du talent. Avant, t'avais du talent aussi, et tu n'arrivais pas à des résultats. Là, il y a eu ce qu'on appelle des réussites, effectivement, des joueurs qui ont su prendre des responsabilités. Un Axel Witsel dans le milieu de terrain qui a fait une très belle Coupe du Monde et qui aujourd'hui est devenu meilleur. Ok, ça c'est une réalité. Depuis qu'il joue à Dortmund, c'est un autre joueur. Il centralise tout le milieu de terrain. Après, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et malheureusement, la Belgique, c'est un peu inhérent au système même de ce qu'est le football belge. Voilà.
Réaction, tiens, sur le hashtag Amstel Live de Biomonster qui nous dit, qui est supporter de quoi d'ailleurs, de la Belgique ou de l'Italie. Il dit on n'est pas des tueurs, c'est tout. Non, il a un drapeau italien, donc je pense que c'est l'Italie. Ça paraît plus logique comme ça. Ouais. Petite question pour toi également, Julien. Et d'ailleurs, vous pouvez venir le poser vos questions au drôle de dame également, sur la nation que vous voulez d'ailleurs. Vous nous appelez au 3216. Vos réactions sur le hashtag Amstel Live aussi ou sur l'application Direct Studio. Alors, on
rappelle que les Pays-Bas joueront demain face à l'Allemagne. Il y a un joueur qui fait beaucoup fantasmer Julien. Il y a une info qui est tombée aujourd'hui. Frankie de Jong, le Néerlandais, il serait à un poil de ma bobard de signer à Manchester City.
Ouais, effectivement, c'est ce que les médias anglais ont raconté aujourd'hui, plutôt bien sourcé apparemment, en plus que Pep Guardiola et Chiqui Begiristain, qui est le directeur sportif à Manchester City, ce serait déjà activé bien comme il faut d'ailleurs sur le dossier de Young, qui fait effectivement pas que fantasmer moi ou Manchester City ou les Anglais, mais aussi toute l'Europe, qui est un joueur comme on l'a vu contre l'équipe de France vendredi, d'un talent incroyable,
très fort,
même à 21 ans, et il semblerait que City, en tout cas selon les Anglais, hein, selon les médias anglais, aurait devancé déjà le Barça, les autres clubs anglais, les autres grands clubs européens pour s'attacher les services de Frankie de Young pour la saison prochaine.
Ça c'est un sacré joueur les mecs. Hein.
Bah ouais, mais en plus quand t'as,
je sais pas ce qu'ils vont foutre avec autant de
quand t'as déjà le milieu de terrain de City,
bah ouais, c'est ça,
et que tu vas chercher De Jong, c'est quand même assez impressionnant.
Mais t'as encore une fois, c'est, on parle souvent de transferts, d'argent, mais quand t'as la chance d'avoir l'impact d'un coach qui est capable de ramener ce genre de joueurs qui veulent travailler avec un tel coach, bah t'as un réel avantage sur le marché des transferts.
Absolument. De Neuer, par exemple, dans une interview qui est parue ce matin dans Le Soir, disait qu'il avait tout à fait manqué de ça et que ça avait peut-être manqué à sa progression. D'ailleurs, ce dialogue avec un coach comme Guardiola qui ne l'a jamais vraiment considéré.
Alors teasing justement, vous allez voir que tout le monde n'est pas de cet avis. Je vais vous lire dans quelques instants les déclarations de Brigel, alors qu'il a expliqué les mots de l'Allemagne en s'attaquant à Pep Guardiola. Question pour David Lortolari. Appelez-nous au 32-16, venez poser vos questions à nos drôles de dames. Simone Rovera, Sacha Tavolieri qui est là pour la Belgique ce soir, David Lortolari, Julien Laurence, on a aussi Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak qui sont là. Bref, on vous attend.
Pour l'Argentine.
Pour l'Argentine, le Portugal aussi, les gars.
Bah oui.
On n'a même pas parlé du Portugal. C'est eux qui vont accueillir le Final Four de la Ligue des Nations. Ils sont
qui là, quoi? Tu parles de quelle compétition?
Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas,
Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, Julien Laurence, Simone Rovera, David Lortolari et Sacha Tavolieri pour la Belgique. Putain, on est 7 ce soir. Ça, c'est de l'avenir.
C'est groupé.
Il y a 7 familles. Putain, pour une fois que je me plante pas, les mecs. Et on est avec vous également sur le hashtag FAQ DDD. Voilà, fort aux questions drôle de dame. Le hashtag RMC Live, comme d'habitude.
Pas très
l'application
sexy,
Direct Studio.
FAQ.
Ouais, mais sinon, c'était fort aux questions drôle de dame. Va taper ça. Les mecs, ils savent pas écrire déjà, d'orthographe. Hashtag, non, mais c'est vrai, quoi. Comment t'écris fort aux questions, toi?
Moi, je sais pas écrire en français, je suis italien. Toi, t'as
c'est hashtag écriture inclusive.
Qu'est-ce que tu veux, là?
Non, mais foire aux questions, ça fonctionne bien, en plus, sur les réseaux.
Il fichaggio. Et puis, on vous attend au 32-16, bien entendu, dans quelques instants. Bon, Lorto, tiens, on était en train de... Enfin, Julien Laurence vous expliquait que Frankie de Jong était annoncé du côté de Manchester City. Beaucoup d'éloges de la part de Ludo Bragnac, de tout le monde, à l'encontre de Pep Guardiola. Alors, les mots de l'Allemagne. Eh bien, Hans-Peter Briegel, joueur mythique de la Mannschaft.
Ah, oui.
Quel joueur?
Champion du monde 90, non, il était là à la finale 86, c'est ce qu'il est, non, en 90 il était plus, en 86, c'était un défenseur athlétique comme, Gilbert Bribois l'adore d'ailleurs.
Ouais, bien sûr,
il estime que c'est le décathlonien idéal.
J'adore ma gueule.
Mais justement, tu sais, ça explique la déclaration que tu vas nous
c'est
donner.
C'est bon, exactement.
Il a fait une interview en Italie, à La Repubblica. Voilà, les bien Italiens sûr. Qui ont décidé de saboter, bien entendu, ce que font nos amis de l'Allemagne.
Oui.
Depuis que Guardiola est passé par le Bayern,
hein. Pourquoi il a joué à l'Inter, lui, non, d'ailleurs.
Il a gagné les Scudettes avec Vérone, si je ne me trompe pas. Donc,
ça va, j'y suis pour rien, mon Breton. Ok. Depuis que Guardiola est passé par le Bayern Munich, dit-il, quelque chose a changé. Nous avions l'illusion que 75% de possession était nécessaire pour gagner, mais avoir le contrôle du ballon n'est pas suffisant pour obtenir un résultat, pas toujours du moins. Alors en fait, Briegel, il est en train de te dire si l'Allemagne est pas bien, c'est parce qu'il y a l'influence de Guardiola sur le jeu allemand et notamment la Mannschaft. Alors je me tourne vers toi, Lorto. Est-ce qu'il a raison, Briegel?
Dis-moi, on a combien de temps jusqu'à la prochaine pub?
Non, mais parce que
c'est fondamental. Effectivement, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que Guardiola a été l'entraîneur du Bayern pendant 3 saisons, a été très bon, a eu des tonnes de points d'avance, mais a échoué 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern est la locomotive du football allemand, donc forcément les autres clubs sont influencés par ce club-là, voire le copie, cherche à copier le modèle, etc. C'est là où ça pose un souci, parce que sur ce point-là, Briegel a raison, le Bayern influence fortement le paysage du foot allemand, le foot allemand, ce vers quoi on se dirige dans le futur proche, par rapport à ce qui se passe au Bayern. Sauf que, le sélectionneur Joachim Löw, il veut bien gagner, et il a gagné en 2014, il veut bien gagner, mais à condition que ce soit beau. Que ce soit du beau jeu, que ce soit esthétique.
Il n'a pas attendu Guardiola pour ça, en plus.
Oui, mais alors, si tu considères que Guardiola, c'est un beau jeu stérile, c'est un souci qu'il y a eu aussi avec l'équipe nationale. Donc, si tu me dis qu'il a pas attendu Guardiola, ça veut dire que ça vient pas de Guardiola, ça vient peut-être
de le directement.
Voilà. Donc là, déjà, on a un argument pour contrer Riegel.
C'est pour ça.
Parce que par ailleurs,
il attend juste. Il arrive quand au Bayern, Guardiola?
Il arrive en 2015.
Ok. Donc
en 2014.
2014. Ouais, bah, et l'Allemagne jouait déjà comme elle jouait avec
depuis
avant.
Un moment. Donc, depuis 2010 en fait.
Donc oui.
Donc ça vient pas forcément 2013, que de lui. Hein. 2013, il fait 13-14, 14-15, 15-16. Mmh. Ensuite c'est Ancelotti. Le problème, si tu commences à réfléchir comme ça, c'est que tu remets en question aussi toute la formation qu'il a pu avoir, le fait d'insister sur des jeunes techniques, sur le talent, sur en fait. C'est une position typiquement qu'on peut rencontrer aussi en politique, c'est-à-dire qu'on est arc-bouté sur des vieux schémas qui ont marché effectivement. L'Allemagne 90, les titres précédents en 54, en 74, il y avait la philosophie, etc. Aujourd'hui, dans un foot mondialisé, clairement, moi j'insiste et je suis contre ce qu'il a dit Briegel. J'insiste, le foot allemand aujourd'hui a bénéficié visuellement, sur l'enthousiasme, sur l'attractivité aussi des familles dans les stades, à bénéficier de sa qualité.
Julien, Guardiola aujourd'hui il est en Angleterre, est-ce que tu as l'impression qu'il a une forme d'influence finalement aussi sur ce que fait Southgate et ce que fait le sélectionneur anglais?
Non, mais personne peut jouer comme les équipes de Pep Guardiola, c'est impossible. Et si je veux dire, il faudrait les joueurs que Pep Guardiola a et personne d'autre les a, ou alors dans d'autres clubs mais avec une philosophie qui est là depuis très longtemps comme le Barça forcément, mais sinon personne peut copier Manchester City, si c'est quasiment impossible.
Faut des sous hein, surtout hein.
Faut des sous et puis après c'est autre chose, c'est pas que l'argent dépensé. Regarde Manchester United, ils ont dépensé 400 millions d'euros sur les trois dernières années depuis que Mourinho est arrivé et ils sont incapables de jouer comme Manchester City. Donc c'est bien qu'il y a autre chose que l'argent, et ce que Pep apporte à cette équipe-là, c'est forcément très différent. Mais que tu aies beaucoup de ballons pour gagner des titres, je sais pas, t'as besoin de Pep Guardiola pour savoir ça. Après,
c'est le Barça qui a influencé tout ça. C'est à un moment, on oublie.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut remonter à Johan Cruyff et
aussi,
on peut aller aussi très loin sur les pères du football.
La possession est revenue à la mode avec les succès du Barça. Mais bon, là. Je pense qu'on a quand même changé de paradigme, mais c'est plus vraiment le jeu qui est un petit peu à la mode.
Là où tu regardes la carrière de Guardiola, donc il est formé, enfin il est tamponné Barcelone, donc il retranscrit ce qu'on lui a appris et ce qu'il a vécu en tant que joueur. Il va à City, enfin il y a City tout est à faire quand il arrive. City est un club assez jeune où il n'y avait pas encore une expérience folle de la Ligue des Champions, même si City est un grand club, hein, je ne remets pas ça en question, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une empreinte City déterminée où là il arrive au Bayern, attention les gars, culturellement.
Ah oui, il y a eu un choc, on est d'accord.
Pour faire, t'as des tauliers qui sont là et puis t'as des conservateurs, les trois qui étaient en place. Ou Lyonnais, Beckenbauer et compagnie, et donc, pour leur faire accepter l'idée que le Bayern c'est une entité et que avec un autre jeu on va sublimer ce que eux ont fait avant, il fallait faire accepter l'idée quand même aux joueurs.
Après,
et
ça s'est pas très bien passé.
Ça a été beaucoup plus compliqué.
Simone, non, City, ça faisait des années qu'il y avait tout qui était mis en place pour l'arrivée des Guardiola. C'est-à-dire, lui, il n'y avait pas une choc. Attendu quand il est arrivé à City, on savait qu'il y avait l'élite qui est prêt et donc elle pouvait aller se coucher et tout allait bien. C'était un rêve qui vivait derrière.
Mais pour en revenir au sujet au déclat, là, je trouve c'est malhonnête intellectuellement ce qu'il raconte.
Puis c'est faux en fait, parce que les équipes aujourd'hui qui réussissent, on a vu Hoffenheim embêter beaucoup dans le groupe de Lyon en Ligue des Champions cette saison. Il y a de Nagelsmann, alors c'est pas des descendances directes, mais il y a des influences qui sont apportées par Guardiola aussi simplement dans
Marcelo Bielsa à la base.
Simplement dans le fait d'être exigeant comme entraîneur, d'en vouloir toujours plus, de vouloir chercher à maîtriser, à contrôler chaque détail, je vois pas en quoi cette influence-là est négative.
Autre question également pour toi, Simone, c'est Doumé qui nous la pose également sur le hashtag.
Oh, Doumé.
Ouais, Doumé. Est-ce que tu peux nous parler de Nicolò Barella?
C'est un joueur très très bon, on les voit avec l'Italie, joueur de 97, de Cagliari, formé à Cagliari, il a fait un année en prêt à Como, où il avait en deuxième division, en Serie B, où il avait eu un peu de temps de jeu. La belle histoire, on peut dire que lui, quand il a débuté en Serie A, là c'est un peu vraiment historique, il avait 17 ans. Et l'entraîneur qui l'a lancé, c'est Gianfranco Zola. À l'époque, Il était entraîneur de Cagliari, il a lancé un coup d'Italie. Après, quelques mois plus tard, il s'est fait virer. Et Zola donc, mais c'est un belle histoire, on peut dire, le fait que c'est Zola qui l'a lancé. En Italie, on parle beaucoup de lui.
Il a que 21 ans, hein, c'est un jeune joueur. Hein.
On ouais. fait, oui, 97. Ce qu'on, à niveau de comparaison, il y en a eu plusieurs, de plus historiques avec Tardelli. Mais les joueurs modernes avec qui on fait des comparaisons sont Vidal et Nainggolan. C'est-à-dire parce qu'il a ses profils de milieu de terrain qui se projette beaucoup. C'est un joueur aussi qui frappe les coups francs pour Cagliari, donc il a marqué un seul but cette saison, mais c'était sur coups francs. C'est un joueur qui marque des buts. Sa meilleure saison, je pense que c'est 6 buts en championnat. C'est un milieu, on dit polyvalent, c'est-à-dire il récupère des ballons, il va dans les profondeurs, il frappe au but. Et c'est considéré, on peut dire, la pépite du prochain mercato. En Italie, avec Federico Chiesa, il était évalué 40 millions cet été par Cagliari. On va voir qu'est-ce que ça va être sa valeur de marchandise à la fin de la saison.
Quel est l'intérêt, Simone, pour le football italien, pour les gros clubs, justement, de récupérer ces joueurs-là, comme tu l'as expliqué tout à l'heure pour l'attaquant de la Juventus qui a failli partir à Marseille. Quel est l'intérêt est-ce qu'on voit l'intérêt finalement du football italien de prendre ces jeunes joueurs qui sont en plein développement, de les mettre dans des gros clubs où ils vont sûrement être troisième, quatrième? Pourquoi ne pas les faire signer et les reprêter derrière?
Alors, la différence, c'est que Barella arrive à sa troisième saison titulaire au Cagliari. C'est un joueur aujourd'hui formé, fini, qui peut être titulaire dans une équipe, je sais pas, comme Milan, avec Kessié et un autre joueur au milieu de terrain. Il peut être titulaire peut-être pas à la Juve, peut être titulaire à la Rome, au Napoli. On parle beaucoup de l'intérêt d'Ancelotti pour lui. Si je ne me trompe pas, Ancelotti, en faisant des comparaisons, a dit il est plus fort que moi à son âge, quand j'avais son âge. Donc c'est un joueur qu'on voit vraiment dans une équipe de l'élite italienne. Après, Moskin, c'est un joueur de 2000, donc c'est encore un autre discours. Il doit encore commencer son parcours. Mais Barella, aujourd'hui, est considéré vraiment le
crack. Comme quelqu'un qui peut s'imposer dans une grosse écurie italienne.
Oui, oui, on voyait pas un joueur de tel niveau si jeune de l'époque de Rossi. C'est vraiment les joueurs qui est considéré comme les joueurs de la sélection pour les prochains 10 années, s'il n'y a pas des accidents de parcours.
On rappelle deux résultats importants quand même de cet après-midi. L'Angleterre qui a battu la Croatie 2-1 et qui est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Et la Belgique qui s'est inclinée en Suisse 5-2, alors que les Belges menaient 2-0 dans ce match. On va accueillir Guillaume qui nous a appelé au 32-16 et les supporters de la Nati. Salut Guillaume.
Salut tout le monde.
Salut Guillaume.
Quel match, Guillaume.
Belle soirée, hein.
Ah bah là, 5-2 là, t'es mené 2-0, quel match.
Ah, j'ai tous mes amis, parce que moi je suis suisse et français, tous mes amis français qui m'envoyaient des textos qui me disaient putain, ça change du match de la France. On me dit là au moins ça construit, ça joue au football et en face il y a une vraie équipe qui joue aussi.
T'es étonné ou toi ou pas par ce résultat justement?
Alors, étonné par le 5-2, oui, évidemment. Alors, à la fin, quand on a mené 3-2, j'ai dit aux amis à qui je regardais le match, je leur ai dit pour moi il y aura 5 ou 6-2, mais c'est à 3-2 que je l'ai dit. Par contre, à 2-0, ils étaient tous en train de me chambrer, et pour moi, on allait revenir. Une compétition internationale, c'est deux équipes qui sont dans le top 10 mondial depuis 10 ans. D'ailleurs, moi, quand j'ai entendu tout à l'heure l'analyse juste après match, je suis très surpris du prisme belge qu'on prend pour parler de ce genre de match. Alors évidemment, la Belgique a
c'est parce qu'on est avec Sacha, Guillaume, c'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ils sont chiants à jouer, hein, les Suisses, hein, vraiment.
Mais voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, on sait que l'équipe de Belgique est une équipe qui, contre les 10 meilleures nations mondiales, est incapable de faire le jeu et de marquer. C'est-à-dire que quand on a mené 3-2, on a reculé de 20 mètres et je savais très bien qu'on prendrait pas de but. Il y a aucune inquiétude. En plus, il y a pas Lukaku. Donc j'avais aucune inquiétude sur la deuxième période de prendre un but.
Au niveau actuel de Lukaku, je sais pas si c'est vraiment.
Non, bien sûr. Quand je parle de Lukaku, je parle de Lukaku du Lukaku qu'on connaît. Ben voilà, pas du Lukaku de ces derniers mois.
Tu veux dire celui de la Coupe du Monde?
Voilà, par exemple, okay. c'est un joueur et même son niveau depuis 3 ou 4 ans, voilà. C'est un joueur qui peut être emmerdant parce que d'ailleurs Batshuayi a fait du bien aussi parce qu'il jouait en appui, il revenait et justement la Belgique a été meilleure. Mais le fait que la Suisse gagne, ça m'étonne pas. Le fait que la Suisse commence mal ses matchs, ça m'étonne pas non plus. Surtout quand on a une défense centrale avec Klose et je sais plus. Alors que notre défense centrale d'habitude c'est Char et Akanji. Donc on n'a pas de défense centrale. Ils mettent un quart d'heure à se mettre en route comme toute équipe de Suisse à chaque fois qu'on regarde un match. Et derrière, ça se remet à jouer avec un public. Avec un public qui est là, il fallait se qualifier. LVD, merci.
J'avais perdu son nom. Quatrième but.
Donc voilà, il donne deux buts à l'adversaire, parce que sur la phase de transition des Belges, parce qu'il marque un but sur une énorme erreur qui remet justement en jeu Hazard, et il marque parce qu'il monte, il monte pas assez sur Hazard de nouveau. Mais c'est deux erreurs individuelles, et le deuxième but des Belges, il est sur une phase de transition encore.
Ouais, après Guillaume, honnêtement, je pense que là où la Suisse a été très très forte, c'est qu'après les deux buts, elle ne s'est pas démobilisée, au grand contraire de la Belgique qui, dès le premier but, a complètement perdu justement cette fameuse osmose. Et je pense que, et c'est là la différence, on en reparlait, de cette équipe qui gagne, qui va gagner. La Belgique n'a pas fermé le jeu à 0-2, elle a continué à jouer un football très offensif, très confiant, en laissant énormément d'espace sur les côtés, et les buts, ils arrivent sur les côtés, les amis, à la base. Hein.
Ah, mais de toute façon, et Shaqiri qui joue en 10, ça fait énormément de bien à l'équipe de 6 depuis 3 mois qu'il a été replacé après la Coupe du Monde, il se décale toujours, il a toujours tendance à aller jouer avec Mbabou sur la droite, qui est bien meilleur que Lang, il faut le dire, et donc il se décale toujours sur la droite, et le pauvre Chadli, bah, c'est deux joueurs quand même internationaux qui sont assez costauds en face de lui, il a été mis en difficulté.
Dans une mauvaise période, Nasser, pour le moment.
Si c'est un match amical, le match à 2-0, il est plié. Mais c'est un match de compétition internationale. Et les Suisses, en général, ils lâchent jamais rien. C'est la différence aussi. C'est-à-dire que les Belges se sont peut-être vus trop beaux. Je crois que j'ai entendu Meunier qui disait, je comprends pas, on n'a pas joué, on mène 2-0, on doit plier le match. Et on se laisse reprendre. Ben oui, mais en même temps, tu te laisses pas seulement reprendre. T'as une équipe en face qui, même si elle rate à chaque fois ses huitièmes de finale, elle a pas passé ses, je crois, ses six derniers huitièmes de finale en compétition internationale. Mais c'est une équipe qui ne perd pas. La dernière fois qu'on avait perdu, bah, c'était la Suède, mais sinon c'était l'Angleterre 2 ans avant. Voilà, on ne perd que contre des très grosses nations. Donc la Belgique a évidemment sous-estimé l'adversaire, menant 2-0 sur deux erreurs, et croyant que c'était un match amical et que ça allait ronronner. Mais non, on leur a rentré dedans en plus.
Bah, tu sais quoi, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le Final Four, la Suisse, justement. Il y a vraiment un joueur dans cette équipe.
Contre, ouais. Là par contre, je serais peut-être moins malin avant les matchs. Parce que
alors je vais te dire, moi pour l'instant, tu veux que je te dise, finalement, partons du principe du postulat que demain les Pays-Bas fassent au moins match nul face à l'Allemagne, ce qui est pas dit d'ailleurs, ce qui est pas dit du reste. Hein. Enfin, t'aurais l'Angleterre qui était quand même dans le groupe de la Croatie et de l'Espagne, t'aurais le Portugal, bon, qui joue pas de fou non plus en ce moment. Alors surtout hier, même si c'est vrai que c'est pas si mal finalement depuis la fin du mondial, t'aurais là la Suisse, bah qu'on n'attendait pas non plus.
Non.
Voilà, tu vois, ce serait un peu étonnant comme Final Four quand même. C'est pour ça que
après comme je disais, on l'attendait pas. Moi, quand j'ai vu Suisse-Belgique qui semble, je savais que l'Islande descendrait. Ça, c'était sûr. Ça, c'est évident. Ouais. D'ailleurs, voilà, bon, on l'a vu sur les matchs, il n'y avait pas mieux. Après, moi, je savais qu'on mettrait en difficulté les Belges. Après, bon, on a perdu là-bas, on gagne chez nous, ça se joue à la différence de buts. Ça me paraît, voilà, pour moi, c'est pas une surprise non plus énorme. Par contre, le fait que l'Allemagne descende dans le groupe de la France, ça, c'est une grosse surprise.
Ouais.
Parce qu'il faut voir qui va être aussi en Ligue B, hein.
C'est sûr, on sait que c'est l'Allemagne déjà.
Voilà, c'est l'Allemagne, c'est l'Islande et dans les autres groupes.
Et la Croatie aussi. La Croatie.
La Croatie, la Pologne.
Ouais.
Italie.
Voilà, ça fait.
Non, quelle Italie. Bon, Guillaume, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, Guillaume.
Bonne soirée, bientôt.
Ciao, Guillaume. Tiens, une petite question pour toi, Julien, puisqu'on parlait justement des nations qui sont qualifiées pour la Nations League. On a José qui nous dit, pensez-vous que la qualif de l'Angleterre soit vraiment méritée pour le Final Four, sachant que c'était pas la meilleure équipe du groupe? On leur rappelle, Espagne et Croatie. Bon, ça veut rien dire, méritée. Je vais te poser la question autrement, Julien. Mais est-ce que t'es étonné de voir l'Angleterre qualifiée pour le Final Four de la Nations League?
Je suis étonné. Alors, un petit peu. Alors, il y a la victoire en Espagne, bien sûr, qui est le résultat clé dans cette qualification, où ils sont excellents dans cette première période où ils gagnent 3-0, et ils sont limite ridicules en seconde période et ça finit, ils gagnent 3-2, mais ça aurait très bien pu faire 3-3 voire 4-3 pour l'Espagne. Et c'est là où tu vois qu'ils ont encore des limites, qu'ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est un peu pareil dans le match de cet après-midi, où ils sont très bons en première période, peuvent pas marquer. C'est beaucoup plus difficile après la pause, mais ils arrivent quand même sur les coups de pied arrêtés, là où ils sont très forts, et notamment cette longue touche de Joe Gomez sur le premier but, où ils arrivent à s'en sortir encore. Donc je pense que il y a une part de talent, c'est sûr. Et puis ils ont vraiment un groupe qui est très intéressant à tout point de vue, notamment au niveau de la jeunesse. Il y a, sur les 14 joueurs qui ont joué cet après-midi contre la Croatie, 12 ont moins de 25 ans et 5 ont moins de 22 ans.
Ah oui.
22 ans ou moins. Donc c'est vraiment pour l'avenir, pour les années qui arrivent. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, chez les équipes de jeunes, c'est la même chose. T'as des joueurs qui sont en train d'exploser un peu partout. Regarde Rhys Nelson par exemple, qui est prêté par Arsenal à Hoffenheim, qui fait une super saison en Bundesliga.
Oui.
L'Orto pourra
confirmer
ça, et qui lui est qu'en équipe d'Angleterre Espoir par exemple. Donc ils ont beaucoup de talent, ils ont un vrai vivier qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire tactiquement, techniquement également, et aussi sur la constance des 90 minutes.
Ok. Tiens, une réaction également sur le hashtag RMCLive de Legosbo, qui est d'accord avec toi d'ailleurs, Jonathan, sur la Belgique dont on parlait tout à l'heure, qui dit mais arrêtez vos conneries, la Belgique est l'une des meilleures équipes au monde, perdre contre la Suisse n'est qu'un accident, cela n'arrivera plus de sitôt, dit Legosbo. Après, moi je veux bien la théorie de l'accident, mais tu as toujours un accident quand tu arrives au virage, quoi. Donc c'est qu'il y a un moment, il y a peut-être un truc qui déconne sur ta caisse. Hein.
Et ce que tu disais était vrai sur les Suisses, il y a quand même de vrais bons joueurs dans cette équipe, plus que jamais.
Hein. Ouais. Zuber est vraiment intéressant.
La plupart, oui.
C'est un joueur.
En défense, en attaque, au milieu, non, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait la Suisse.
Ouais, c'est Ferovic. Ouais.
Bah, Ferovic,
moi je suis pas fan, hein, franchement.
Non, mais Ferovic, on parlait des. Tout à l'heure, on parlait des numéros 9, c'est Ferovic, c'est très 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 bas dans les classements des meilleurs attaquants.
Ouais, d'accord.
Ouais, non, mais. Seferovic aujourd'hui, bah, il a toute l'opportunité qu'il veut de mettre, de jouer de la tête, et donc il émet ses buts quand même. Hein.
Il n'est pas régulier sur une saison, mais là, c'est, il est au top de la vague, le mec, qui est sûr.
Shaqiris,
tu remercieras Vincent Kompany.
Il a trouvé sa place même à Liverpool, c'est en train de s'imposer. C'est-à-dire, on avait plein de doutes. Moi, je me rappelle quand il est passé à l'Inter, on se disait, bon, il va nulle part. Donc,
même au Bayern, non? Précédemment.
Cette soirée est quand même un peu historique pour la Belgique parce que ça faisait depuis le 7 juin 2015 que la Belgique n'avait pas encaissé en une mi-temps au minimum 3 buts et c'était face à la France.
Il y a rien d'historique 2015.
C'était au Stade de France.
Il y a rien d'historique 2015.
2015 quand même.
Bah, 2015, c'est rien 2015.
Il y a 3 ans.
Mais c'est rien, 3 ans, les mecs.
Il y a 3 ans, l'équipe n'était pas la même, l'entraîneur n'était pas
le Portugal
n'a
jamais gagné en Italie de son histoire.
Nengola
n'est
toujours en équipe nationale. Tiens.
Le Portugal, voilà. C'est la seule équipe invaincue de cette National League.
Ah ouais?
Ah, je pense.
Bah attends, il joue la Pologne encore, il reste un match.
Ah bon.
Bah, il reste un match.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'injures pour la Pologne que.
Teasing parfait. Dans quelques instants, Antonio sera avec nous, lui qui nous a appelé au 32-16. Appelez-nous également au 32-16. Nos drôles de dames vous attendent. Posez-leur vos questions, venez débattre. Vous aussi. Si vous êtes supporter des nations africaines, bah venez également, tiens. On était tout à l'heure avec Corentin Martins, on vous le rappelle. La Mauritanie qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On est avec David Lortolari, Sacha Tavolieri pour la Belgique, Julien Laurence pour l'Angleterre, Simone Rovera pour l'Italie. J'ai pas dit que Lorto c'était pour l'Allemagne, mais vous le saviez déjà.
Oui.
Jonathan Moicardi pour ce que tu veux. Et Ludo Bragnac pour que dalle. A tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Ah, je peux vous dire que les débats vont bon train également durant les pauses.
Ça va l'eau.
Ah là, ça va l'eau. Oh, c'est le cas de le dire. Tu disais quoi, Ludo, là, pendant les débats? Ça parlait du numéro 10 en équipe de Pologne, tout ça que t'as porté toi aussi.
Ah oui.
T'as porté du côté de la GIO, c'est
lourdement. Je vais porter lourdement.
Ouais.
Comme à la GIO, t'as le numéro
quand
10.
Quand tu l'as porté, je trouvais ça un peu fade.
Sur la
ouais, 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 je trouvais un peu fade aussi. Aussi.
Il a besoin d'être, il faut être stimulé.
Pas, ouais, exactement.
Pas sexy.
Ouais. Ouais. Non, fade, je pense fade. Que c'est le mot.
D'accord.
Ouais, mais à l'époque intellectuel, ça fonctionnait.
Mais vous voyez, c'est important. Le fameux cul du football, bien entendu. Voilà, football, c'est ça qui était important. Vous le savez, on est en pleine foire, c'est le cas de le dire, on l'avait compris, voilà, les foires aux questions des drôles de dames, bien entendu. On vous rappelle que l'Angleterre est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, que la Suisse également, la Suisse qui a tapé la Belgique ce soir 5-2. Regarde-moi quand je te parle, Sacha, s'il te plaît.
Excuse-moi, je pensais que tu me regardais pas, j'étais dans...
Le mec, il est en train, il est en plein déni, le mec. On accueille Antonio, supporter du Portugal, qui nous a appelé au 32-16. Comment est Antonio, caralho? Comment est-ce que ça,
je
sais pas? Attends, tout va bien,
bon. Ouais, bonsoir messieurs.
Salut Antonio.
Bonsoir. Salut, ça va?
Bon, et toi alors?
Bon, bien, tranquille. Écoute, moi, si on m'avait dit qu'on allait finir premier devant l'Italie et la Pologne au début de la Ligue des Nations, j'aurais signé les deux mains. Hein. Après, c'est vrai que, bon, ça c'est pour un peu pour l'Italie. C'est vrai que, franchement, je pense que Mancini est en train de faire une bonne petite équipe d'Italie. Là. C'est vraiment très bien hier, ce que j'ai vu. C'est vrai qu'on a été, globalement, on a été dominé. Il faut reconnaître les choses. Mais j'ai l'impression que, Nico, tu vas pas me contredire, qu'on a retrouvé un peu cette rigueur défensive et cette rigueur tactique qu'on avait lors de l'Euro 2016. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Défensivement, on a été très fort.
Je vais dire, je vais plus surtout te dire que la première période, je me suis bien emmerdé comme en 2016. Mais tant que ça passe, non, mais sans déconner. Moi, tant que tu es au bout, tu as ce que tu veux. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que Santos, il avait quand même changé la façon de jouer depuis un moment. C'était mieux. Et lui-même, à la fin du match, moi, je me suis fait tailler hier de fou parce que j'avais dit ça à la mi-temps du match. Mais écoutez, Santos, supporter du Portugal, son analyse d'après-match. Mais lui-même l'a dit. On a Bernardo Silva qui a joué latéral. C'était pas le plan de jeu. On a laissé le ballon aux Italiens. La possession de balle pour l'Italie en première période. C'est plus de 70%. C'est-à-dire, non seulement ils ont laissé le ballon, ils ont laissé le jeu, ils ont.
73, je crois.
Ouais, non, mais c'était terrible.
Oui, mais les gars, on n'a jamais été en grosse difficulté pendant le match.
Ça, c'est vrai, au niveau des occasions, en revanche, c'était pas.
On n'a pas été en difficulté. On a une grosse occasion à la fin que Doruma sort bien, là, le tir de Carvalho. Bon, c'est vrai que
c'est le premier tir cadré, 75e minute.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais. voilà, le problème c'est que c'est ces matchs serrés où les deux équipes tactiquement sont en place, tu sais très bien que c'est un match qui peut se dérouler sur qui peut déboucher sur un seul but. Ah, ouais. Après le problème c'est que nous au début du match on avait besoin d'un match nul. Un match nul, on savait que ça nous suffisait. Aujourd'hui, on finit quand même premier d'un groupe avec l'Italie et la Pologne. Bon, c'est vrai que la Pologne, c'est pas Ludo. Tu vas me confirmer que la Pologne, pour cette élimination, ça n'a pas été le top quand même.
Hein. Bah ouais, d'autant plus que là, pour le prochain match, Lewandowski est pas là, donc là, on n'est pas super optimiste. Je te le cache pas.
On joue sans Cristiano Ronaldo, donc c'est quand même un autre fer de lance. Donc bon, je pense qu'il va revenir pour le final fort quand même, j'espère. J'espère. Mais non, écoute, tactiquement, Fernando Santos, il a fait du Fernando Santos. Mais tactiquement, et surtout, on a eu un grand Rui Patricio. Nico, t'es d'accord avec moi là-dessus?
Bah, c'est ça qui est peut-être un peu inquiétant aussi, finalement. Quand tu te dis que c'est comme la France, ils perdent face aux Pays-Bas, mais Loris a été le meilleur joueur de l'équipe de France. Rui Patricio, c'est pas long d'être le meilleur joueur du Portugal face à l'Italie.
Tu peux aussi faire le parallèle avec l'équipe de France aussi, parce que tu vois un entraîneur qui te dit, bah, le plan de jeu, c'était pas ça. Et que on pointait du doigt hier aussi la responsabilité des joueurs.
Mais tu veux que
tu
je te dise une chose,
l'animation de jeu en place.
Mais pour moi, il y a une grosse différence. Ouais. C'est que au Portugal, t'as pas Mbappé, t'as pas Griezmann, t'as pas tous ces, t'as pas même des Martial que tu appelles pas, des Lacazette, des machins. Là, t'as pas Ronaldo, qui est quand même le leader. Alors, c'est d'un commun accord, il est pas là. Et le Portugal, et ça, vous allez dire, je suis souvent sévère avec le Portugal. Mais le Portugal jouait mieux ces derniers temps que l'équipe de France.
Je te parle aussi du rapport de force. C'est-à-dire que tu peux partir avec une stratégie, peut-être Didier Deschamps, parce qu'on là, on parle de l'entraîneur portugais qui te dit, le sélectionneur portugais qui te dit, écoutez, moi j'ai pas mis ça en place au départ. C'est le rapport du force qui fait que les Italiens, à un moment donné, nous ont fait un pressing. On n'a pas su répondre à ça. Et on peut faire le parallèle aussi peut-être avec l'équipe de France où l'animation que les joueurs font, ils ont perdu le rapport de force et que des fois, bon, il y a le sélectionneur, mais aussi la responsabilité des joueurs dans leur façon d'animer le système.
Si je peux rajouter, on a quand même été très fort parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a mis en place un plan de jeu qui n'a pas fonctionné, mais on a su s'adapter quand même. On a su courber les chines, ne pas prendre de but, c'était quand même une bonne chose. Après, voilà, on savait très bien que le 0-0, c'était le meilleur résultat pour nous. Et on a su faire, des fois, tu sais, Ludo, t'as été joueur pro, des fois, des matchs que tu peux pas gagner, faut pas les perdre. Hein.
Mais parce que t'as pu t'appuyer sur une défense centrale, je dirais que toute la défense portugaise, l'association Ruben Dias-José Font, plus Rui Patricio en état de grâce derrière, tout ça, ça a bien fonctionné. Comment et puis ça. Qu'est-ce que tu veux
quoi? José Font. Ça, tu le tires bien.
Ah oui, tu m'as appris. Oh, maintenant je sais.
C'est Font.
Ouais. Il est tient bien.
Je dis plus Fonte, c'est Font.
Non, c'est Font.
Font.
Font. Font.
Et justement, tout à l'heure, tu parlais de Rui Patricio. On a déjà expliqué les liens qu'il peut y avoir entre Wolverhampton et Jorge Mendes, le fait que évidemment ce soit son agent et il dirige une grande partie de sa carrière, voire même la totalité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas encore meilleur s'il jouait dans un club plus important encore? Est-ce qu'il n'aurait pas le niveau, contrairement à d'autres gardiens? Parce que c'est souvent le problème de certains grands clubs, c'est que les gardiens ne sont parfois pas au niveau. Lui, par contre, je le trouve très fort.
Pour moi, alors toute proportion gardée, mais quand tu recontextualises, quand il était au Sporting, il était dans un club qui jouait des titres. Donc il était dans un grand club, il était moins sollicité peut-être d'ailleurs qu'il est aujourd'hui à Wolverhampton. Et moi j'ai sincèrement cette impression, il faisait plus de conneries avant qu'aujourd'hui. Là il est à Wolverhampton, qui d'ailleurs fait un bon début de saison. Ils sont très très bien. Je crois même d'ailleurs, si je dis pas de conneries Julien, qu'il a été nommé comme étant peut-être la meilleure recrue, l'une des meilleures recrues de PL de l'été dernier, Rui Patricio. J'ai vu qu'il y a un canard qui l'avait élu, je sais plus si c'est le Guardian ou un journal qui l'avait élu comme tel. Mais voilà, il est dans un club, le mec il est performant, il est bon en équipe nationale aussi. Je l'ai jamais trouvé aussi bon que maintenant, Rui Patricio.
Aussi par sa régularité, ça fait un moment qu'il est bon.
Ouais, c'est vrai, ça fait 3-4 ans.
Et mentalement, il est très fort, les gars, parce que c'est vrai que tu disais qu'au Sporting, il jouait le titre, donc il n'a pas beaucoup d'occasions de briller, mais chaque fois qu'on a eu besoin de lui, et même avec la sélection portugaise, à chaque fois, il nous a sauvé un peu.
Ah bah 2016, c'est lui,
L'Euro lui fait beaucoup de bien, la finale de l'Euro, elle lui fait beaucoup de bien, j'imagine, au niveau confiance et tout ça.
Bien sûr, c'est clair.
Merci Antonio d'avoir été avec nous.
Merci, Antonio.
Bonne nuit, salut Antonio.
Ciao,
Julien, justement, on commence en Angleterre à parler un petit peu là de ce qu'attend les Anglais là pour le Final Four là. Bon, il y aura la Suisse, il y aura le Portugal.
Ouais, alors ben à la fin du match aujourd'hui à Wembley, ils ont remis leur chanson It's Coming Home qui avait tant chanté à la Coupe du Monde en espérant la ramener à la maison comme ils disent. Donc forcément ils sont très excités. Et puis si tu peux aussi éviter des plus gros cas sans faire offense à la Suisse ou au Portugal et puis peut-être aux Pays-Bas, mais c'est vrai qu'ils s'attendaient peut-être à six qualifiés à tomber contre des plus grosses nations entre guillemets, et que là ça devient beaucoup plus ouvert pour eux, et avec l'effectif qu'ils ont, la dynamique qu'ils ont après la Coupe du Monde et après cette Ligue des Nations jusqu'à maintenant, ils vont sûrement croire que qu'ils ont la place pour faire quelque chose de très intéressant.
Et je vous fais un petit teasing pour demain également. Il y en a pas mal qui demandent si Cristiano Ronaldo va être appelé en équipe nationale, alors pour le Final Four mais aussi pour le début des qualifs au mois de mars prochain. Santos, il a un petit peu botté en touche, hein. Il a été interrogé cette semaine avant le match face à l'Italie. Il a dit je répondrai à cette question le moment venu. Voilà, on savait qu'il jouerait pas avant 2019. Là, hier, il a été réinterrogé là-dessus. Il a réagi, alors, de façon un peu agacée, en disant, j'ai déjà répondu à ça, on verra plus tard. Demain, on en parlera avec Kevin Diaz, qui est d'ailleurs consultant sur la Liga Portugaise sur RMC Sport. On viendra là-dessus. Plus, moi, j'ai pas la réponse. Et d'ailleurs, lui-même l'a pas non plus, visiblement, Santos, pour l'instant. Il y répondra le moment venu. Mais c'est comment ils vont gérer ça? Mais
c'est,
quand il sera là.
C'est comme Messi, en fait. Les deux sont en stand-by.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est moins conflictuel que Messi, quand même.
Messi, c'est pas tant conflictuel que ça.
Ah bah il y a pas, enfin alors il y a pour moi une grosse différence entre Messi et Ronaldo. C'est que Ronaldo, il y a des aéroports à son nom, des statues, des rues.
Ah
et tout,
oui, non, tu parles de son rapport. Tu parles du rapport avec le pape.
Tu peux pas juste le mettre numéro 9 et enlever André Silva, garder le même système.
Alors justement, s'il revient, ça veut dire que là il joue en 4-3-3. Ils reviennent au système qui était un peu.
Tu le mets attaquant de pointe et.
Bah tu joues en 4-4-2 quand il est là, parce qu'en fait il fait un peu ce qu'il veut quoi. T'es obligé. Il joue avec André Silva, les deux sont en merde.
Il pourrait pas y avoir un remplacement poste pour poste avec André Silva.
Mais là il joue en 4-3-3.
Oui, mais est-ce que ça pourrait, il pourrait être numéro 9 à la place d'André Silva.
Moi j'ai du mal, sincèrement.
Il est bon,
vu l'état de forme, l'état de forme de Silva,
ça serait injuste. Hein.
Et puis les deux ont des stats de dingue.
Mais en plus ils jouent bien ensemble.
Je te réponds. Ça pose un problème surtout tactique d'ailleurs. C'est surtout ça d'ailleurs que ça veut dire. Petite question pour toi, mon Lorto, également. Il y a Johan qui nous a demandé sur le hashtag Foro Question Drôle de Dame. Pourquoi Müller est-il toujours appelé en équipe nationale?
Il va avoir 100 sélections s'il joue demain.
Il a claqué 3 buts en 22 matchs depuis le début de saison.
Le sélectionneur a donné la réponse concernant Müller. Il a fait un plaidoyer pour ce joueur qui se défend tout à fait, ce plaidoyer en question, cet argumentaire. Donc 99 sélections à moins de 30 ans, c'est très très rare. Je peux vous donner très vite les joueurs qui ont dépassé les 100 sélections en équipe d'Allemagne. Il y a Thomas Hassler, 101, Beckenbauer, 100, Mertesacker, 104, ça c'est peut-être l'exception, Jürgen Kohler, 105, Jürgen Klinsmann, 108, Philipp Lahm, 113, Schweinsteiger, 121, Podolski, 130, Klose, 137,
il y en a plein,
Matheus, 150. Oui, mais t'as vu les noms que c'est? Et deux joueurs de la DDR aussi. En fait, le sélectionneur a expliqué que Thomas Müller, et ça, moi, je considère que c'est très important, et d'un point de vue d'un entraîneur et d'un sélectionneur, c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être. C'est un joueur qui n'est jamais, jamais, jamais absent. Jamais blessé. Il a toujours été là depuis qu'il a commencé en équipe nationale. C'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Alors oui, son influence a peut-être baissé, mais encore dans les matchs récents où il a été titularisé ou bien où il est entré, les entraîneurs le défendent en disant il attire les défenseurs à lui, il propose des choses originales, il est utile à l'équipe. Certes, statistiquement, ça a baissé, et je vais pas dire le contraire parce que sinon, à juste titre, je me ferais taper dessus, mais Thomas Müller est toujours quelqu'un qui est légitime dans un groupe comme l'équipe d'Allemagne. De point de vue du sélectionneur, je suis d'accord avec lui.
Non, après, s'il joue pas, sa femme s'énerve, on voit des Snapchat ou des Instagram, qu'est-ce que c'était donc.
Il y en a d'autres qui font ça.
C'est injureux.
Il y en a d'autres qui font ça,
excellent. Sa
femme non, les cavalières de haut niveau,
Cavalières de haut niveau. Ça, c'est beau, ça. Tiens, je sais que tu voulais glisser un mot sur l'Argentine également, mon Jonathan, alors qu'il a gagné en amical 2-0 face au Mexique. Scaloni assure l'intérim en ce moment au poste de sélectionneur, et toi, t'aimerais qu'il reste?
Je pense que c'est la meilleure solution sur le moyen terme, parce que ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, bah c'est pas trop mal. Je pense qu'il gère avec beaucoup de diplomatie locale Lionel Messi. On sait pas encore si Messi va revenir, il est interrogé là-dessus, ça passionne les foules évidemment. Il explique que bah de toute manière pour l'instant personne ne peut prendre le numéro 10 parce qu'il est réservé à Messi, mais qu'il verrait bien comment ça se passe. Il intègre des jeunes joueurs que tout le monde avait envie de voir en sélection. Donc je pense à Icardi qui est sélectionné, Lautaro Martinez et le petit Palacios par exemple de River Plate qu'on va voir jouer samedi soir.
Final retour de Copa Libertadores.
Lui aussi, il a été intégré. Là, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, le match contre le Mexique a été très cohérent. Ça a joué en 3-4-3 avec Lo Celso devant la défense qui a fait encore un très bon match. Ça, je pense, ça peut donner quelques regrets au Paris Saint-Germain qui n'ont pas de sentinelle parce qu'ils jouent sentinelle maintenant, Lo Celso. Et puis,
il y a vraiment une sorte d'émulation. Alors on sait qu'il y a beaucoup de talents offensifs. Là, ils avaient pas Agüero, ils avaient pas Messi, ils avaient pas Di Maria. Bon, Di Maria, c'est plus un choix de un choix de Scaloni, mais ça a joué quand même avec Correa, avec Dybala, avec Martinez. Donc le talent, il est là. Sur chaque ligne, je pense que derrière aussi cette défense à 3, il y avait Juan Foyt qui joue à Tottenham, qui a fait encore un match plus que correct avec Funes Mori. Il y a des joueurs qui sont bons à chaque ligne. Je pense que Sampaoli n'a pas réussi à sélectionner les bonnes personnes. Il a trop voulu faire utiliser les mêmes vieilles recettes, se servir de la vieille marmite. Là, je pense que lui, il a pas peur d'intégrer les jeunes, d'intégrer des joueurs du championnat local et pour reconstruire une sélection qui est moribonde dans un contexte qui est moribond lui aussi parce qu'on sait comment ça se passe à la fédération argentine. On sait que le championnat local n'est pas dans la meilleure des santé. Je pense que un entraîneur un peu anodin comme ça, ça peut être une bonne solution et surtout le bon travail qu'il fait.
Très bien. Est-ce que je peux poser une question à Jonathan McCarthy ou on n'a pas le temps?
On n'a pas le temps.
Ah. Vas-y, pose-la. Vas-y,
Les joueurs posent la question, mais il n'aura pas de réponse.
Bon, les sites italiens disent que Dybala a pris l'Argentine comme il a pris la Juve. Après, il n'a pas pris la Juve, mais est-ce que Dybala est devenu une star sans Messi?
Pas encore, mais en tout cas, il a fait un très bon match et c'est lui le fer de lance de l'Argentine sur les derniers matchs, oui.
Oh, quelle synthèse incroyable! C'est exceptionnel! Bravo, monsieur! Voilà.
On finira sur le fer de lance.
Merci, Julien Laurence!
Merci les gars.
Bonne soirée. Merci Sacha, tu reviens quand tu veux mon pote.
Ben moi je reviens quand vous voulez. Je suis là. Merci à vous de m'inviter.
Ah, bisous à tous les Liégeois bien entendu.
Et bisous à Liège. Merveilleuse ville, très belle ville.
L'une des plus belles villes où je suis allé d'ailleurs. Exactement. En reportage. Merci beaucoup si vous voulez revenir. L'Italie, pays que j'adore. J'embrasse Katia une nouvelle fois bien entendu aussi. Voilà, qui m'a reglissé un mot doux sur l'application Direct Studio. Voilà.
Quelle mauvaise foi.
Merci beaucoup David Dorfman.
Viens en Allemagne, fais du viandage.
Viens, on va déjà aller t'acheter des fringues.
Oui, oui.
Merci beaucoup Jonathan McCarthy. Merci Ludovic Obraniak. Merci à Cyprien Bétou. Et merci à Quentin Barbière et toutes les équipes techniques et éditoriales.
Merci Nicolas Villa.
Voilà, Nicolas Pelletier, bien entendu.
Merci Nicolas.
Voilà. Merci beaucoup. Et puis on vous laisse avec le RMC Poker Show. Je sais même pas le dire, putain. Allez, à demain. Bisous, ciao.
Ciao.
RMC Football Show, l'After Foot.